Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
La piété populaire est l'expression de l'inculturation de la foi catholique et beaucoup de ces manifestations ont pris des formes religieuses autochtones. On ne doit pas sous-évaluer la possibilité d'en tirer aussi, avec une prudence éclairée, des indications valables pour une plus grande inculturation de l'Évangile. Amis auditeurs, bonjour. Ce constat de Saint Jean-Paul II, tandis qu'il s'adressait à l'Église d'Amérique, nous fait prendre conscience de la place qu'a eu la culture dans l'évangélisation des peuples. Approfondissons ce sujet aujourd'hui. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des Misses étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame. Et nous accueillons aujourd'hui Christophe Wu. Bonjour Christophe.
Bonjour Joseph.
Christophe, vous avez grandi et vécu à Taïwan durant de nombreuses années. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la problématique de l'inculturation. Qu'est-ce que l'inculturation et pourquoi en parler ?
Alors, merci d'avoir m'invité pour cette émission. L'inculturation, pour moi, un chrétien catholique qui avait vécu longtemps dans l'Église en Asie, particulièrement en Chine, à Taïwan, c'est une question fondamentale pour nous les chrétiens, pour une simple raison, parce que la foi chrétienne devrait être comprise avant d'être aimée et pratiquée. Donc l'inculturation est en quelque sorte le premier étape, le moyen par lequel le peuple autochtone arrive à comprendre le message évangélique. Donc, pour commencer, je propose une lecture très simple. Qu'est-ce que c'est l'inculturation? C'est un processus long, parce qu'on n'a pas fait ça comme un fast-food en 30 secondes, en 3 ans ou 6 mois. C'est un processus long qui prend parfois des générations, des décennies, voire des siècles pour arriver. C'est aussi un engagement, parce que c'est pas on fait ça à la carte, j'ai pas envie de faire de lendemain. Donc c'est un engagement, c'est un dialogue entre la foi chrétienne, le message évangélique et une culture donnée en particulier. Donc ça a une définition simple, donc un processus, un engagement long entre la foi chrétienne, message évangélique et une culture donnée. Pourquoi il est important? Alors, il y a double objectif. Quand un missionnaire, que ce soit un prêtre, un religieux ou un laïc qui porte la foi chrétienne à un peuple qui est jusqu'à présent ignorant de messages évangéliques, il faut transmettre fidèlement la foi chrétienne. Donc on n'a pas à diluer la foi chrétienne, on n'a pas à inventer une histoire pour faire plaisir au peuple local. Le but, c'est le sauvegarde de l'intégrité de l'évangile. Mais il y a un deuxième objectif, c'est sensible au contexte et aux limites culturelles. On est en 21e siècle, en 2024, tout le monde fait constat, les langues sont différentes, les cultures sont différentes. Donc d'un peuple à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, il y a des limites, il y a des qualités et des faiblesses dans chaque langue, chaque culture. Donc pour transmettre fidèlement l'évangile, il faut prendre en compte aussi les particularités de chaque contexte historique et culturel.
Cette notion d'inculturation, elle ressort plus particulièrement après le Concile Vatican II et la figure du pape Jean-Paul II l'a largement développée, je crois.
Oui, c'est exactement ça. En fait, si on remet très rapidement dans le contexte historique, le Concile Vatican I a mis un accent très fort sur la centralité de l'Église, sur tout est autour du pape. C'était dans le contexte historique parce que les puissances en Europe qui mettent de plus en plus de pression sur l'Église. En revanche, le Concile Vatican II, c'est après les deux guerres. Et donc, le contexte historique a complètement changé et l'Église a pris conscience des particularités de chaque Église locale. Donc, le Concile Vatican II a encouragé les pasteurs locaux de regarder davantage tout en tenant compte la transcendance de la foi chrétienne, mais regarder comment on peut transmettre plus efficacement l'évangile. Et Jean-Paul II, comme chacun le sait, qui vient d'un pays de l'Est, qui est sensible a déjà la différence de culture, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, et aussi c'est un pape qui a une dimension missionnaire évangélique très très forte. Donc il a, pendant son pontificat, il a encouragé la nouvelle évangélisation, encouragé les missionnaires de relire un petit peu les récits des missionnaires pour justement que l'inculturation prenne une forme encore plus enracinée et plus profonde.
Quand, si on prend du recul sur cette question de l'inculturation, est-ce que vous diriez que c'est facile pour un missionnaire d'arriver et de s'adapter à la culture d'un autre pays ? Je pense vraiment que la culture fait partie de chacun de nous, et donc un missionnaire français qui arrive dans un pays arrive aussi avec sa culture française. Est-ce que c'est simple pour lui de s'intégrer et de participer à la culture du pays dans lequel il est appelé en mission ?
La réponse courte est non, ce n'est pas facile. Et pourtant, comme chacun le sait, l'évangile du Christ, c'est prendre sa croix, se renoncer et suivre le Christ. Donc non, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas pour autant, c'est insurmontable ni impossible. Permettez-moi de introduire une petite parenthèse, si je peux être aussi prétentieux, de théologique. Dans la foi chrétienne, on distingue quand même quelques éléments qu'il convient de ne pas confondre. Il y a la nature humaine, il y a la culture, il y a la grâce de Dieu. La nature humaine, c'est ce qui constitue chaque être humain. Donc nous sommes tous des êtres humains, nous sommes créés par Dieu, nés des parents, et puis on vit dans un contexte particulier. Et la culture, c'est la prolongation, le rayonnement de la nature humaine. Et la culture, c'est peut être très très conditionné par le lieu où on habite. Et lorsque un missionnaire qui porte la foi chrétienne et le message de l'évangile de son pays natal à l'autre bout de la terre, forcément, il va rencontrer des cultures l'expression culturelle est très différente des siens. Et pourtant, la nature humaine ne change pas. On ne va pas dire la nature humaine d'un Français est en contraste avec la nature humaine d'un Chinois ou un Japonais ou un Coréen. C'est la même nature. Donc, il faut opérer sur deux aspects ou deux registres en même temps. C'est-à-dire, il faut tenir en compte la particularité culturelle. C'est ça le défi, mais tout en regardant la nature humaine est universelle et la grâce divine agit, opère principalement dans la nature humaine.
Christophe Wu, vous avez vécu de nombreuses années à Taïwan et dans le monde chinois. Comment s'est manifestée concrètement cette inculturation dans le monde chinois ?
Alors, c'est un processus très long. Il y a, dans un premier temps, bien sûr, c'est la traduction des textes de la Bible, de textes magistères et puis des livres de saints en langue chinoise. Ça, c'est la fondation de toute œuvre inculturation. On ne peut pas demander tout le monde d'avoir un doctorat en langue latine. Ce n'est pas possible. Donc, la première étape, c'est vraiment la traduction des textes. Mais aussi, il y a aussi cet aspect de tenir en compte la culture chinoise, c'est aussi une culture multimillénaire. Donc, il y a sa splendeur, sa qualité. Et donc, forcément, lorsque la culture européenne, influencée par la foi chrétienne, arrive, il y a un moment de adaptation. Donc, pour moi, ce que j'ai vu, c'est principalement par l'architecture, donc ce qui est visible, donc la liturgie, la façon de célébrer la messe. Donc, il y a des éléments locaux, les couleurs, la forme, les tissus. Donc, on ne va pas demander les missionnaires portent le même habit comme en Europe comme en Asie. Et la façon de se comporter, les façons de saluer les gens, la façon de entre hommes, femmes, la façon entre un prêtre et puis un fidèle. Donc, ce sont des petites choses, mais c'est la cumulation des détails qui fait la différence.
De manière très directe, Christophe Wu, est-ce que vous diriez que l'inculturation chinoise a marché ? Est-ce que c'est un succès ?
Alors, ça serait prétentieux de ma part de dire un oui ou un non. Mais je dis que j'ai vu et j'ai vécu, j'ai pu témoigner que beaucoup d'instances et dans beaucoup d'exemples, c'était un succès à l'instant même. Mais je ne vois pas toujours le fruit à long terme. Prenons exemple, il y a des missionnaires dans l'histoire, depuis 2-3 siècles, qui arrivent de convertir beaucoup de gens en peu de temps, qui ont constituer une communauté locale qui sont très ferventes et puis très missionnaires, orientées vers ramener les âmes vers le Christ. Mais au bout de quelques années, ça s'étiole, ça disparaît. Donc, parfois, je me suis posé la question, est-ce que le succès d'un temps, c'est le succès de tout le temps, est-ce qu'on peut vraiment juger? Donc, c'est pourquoi je ne veux pas, c'est prétentieux de dire c'est un succès ou pas un succès. Je dis, pour moi, il y a des succès par moment, mais j'aimerais bien voir que le succès à long terme.
Aujourd'hui, vous diriez que la situation de l'Église de Chine, elle est le fruit, quelque part, de cette inculturation?
Tout à fait. Je suis, là, je peux dire sans ambiguïté, avec beaucoup de fierté, que les missionnaires depuis des générations, depuis des siècles, et l'Église locale en œuvrait dans l'inculturation pour le bien des fidèles. Donc, il y a un fruit indéniable. Ce fruit-là, c'est précieux et c'est délicat aussi. Donc, il faut encore maintenir pour que ça continue de porter davantage de fruits pour les générations à venir.
Et aujourd'hui, dans l'Église chinoise, avec la figure du pape François aussi, qui parle beaucoup d'inculturation, est-ce que vous sentez un regain d'intérêt pour cette question?
Alors, cette question-là est beaucoup discutée quand j'ai eu l'occasion de parler avec des fidèles et des prêtres chinois et Taïwan. Effectivement, c'est une question qui intéresse davantage les gens. Alors, après, il y a une nuance, c'est même pas une nuance, c'est un fait important à tenir compte, c'est en Chine, dans un régime communiste, dictatorial et puis autoritaire, l'inculturation, forcément, doit être très délicate et très prudentielle.
Voilà. Amis auditeurs, c'est déjà l'heure de notre petite pause musicale. Juste après la pause, on va parler de la figure du père Vincent Leb. Restez bien avec nous, amis auditeurs. Éditeur, vous venez d'écouter Conquest of Paradise du groupe Vangelis. Et justement, c'est ce qu'ont voulu faire ces missionnaires, voilà, conquérir le paradis en parlant de notre Seigneur à ces peuples lointains. Et nous allons maintenant retrouver Christophe Hou pour parler de cette figure du père Vincent Leb. Cette figure du père Vincent, c'est la figure de l'inculturation en Chine, Christophe Hou.
C'est exact. Père Vincent Leb, à ma grande surprise, quand je suis arrivé en France, reste largement inconnu. C'est un certain siècle, c'est un milieu, Père Vincent Leb est souvent évoqué, ils font il fait l'objet des études, des séminaires par des sociologues, par des historiens et par aussi des missionnaires. Voilà, donc je profite l'occasion pour vous en parler avec l'auditeur aussi, un petit peu sa figure, Père Vincent Leb. Donc, il est né en 1877 à Caen, en Belgique, d'un père flamand, une mère française. Donc, dès le point de départ, il est exposé à deux cultures. Et à l'âge de 12 ans, il a découvert Saint-Jean-Gabriel Berbois, un père lazariste, martyr en Chine. Et ça lui a inspiré, ça lui a donné l'élan de devenir prêtre et missionnaire et éventuellement martyr en Chine. Donc, en 1895, il est entré dans le noviciat de père lazariste et être formé pour devenir prêtre. Et puis, par la suite, il est envoyé en Chine pour devenir prêtre. Et en Chine, là, il a œuvré pour sauver les âmes. Et justement, avant le mot « inculturation » soit populaire et devenu vraiment le mort d'ordre de l'Église, il a déjà commencé l'inculturation sans avoir le mot dans la tête.
Quelle est la singularité de l'œuvre du père Vincent Leb et quelle est sa pertinence par rapport à son arrivée dans ce monde chinois ?
Alors, il y a trois axes qu'on peut lire sa vie et son héritage aujourd'hui dans l'Église en Chine et à Taïwan. Premièrement, c'est quand il est arrivé... On doit faire un rapide état des lieux. Quand il est arrivé en Chine, c'est-à-dire on est arrivé à la fin de l'Empire et on est l'avant-veille de Première Guerre mondiale. Donc c'était une Chine extrêmement instable, une Chine qui connaît beaucoup de inégalités et même dans l'Église même. Donc Père Vincent Leb a été envoyé d'abord pour accompagner des Français expatriés, souvent des hommes d'affaires, des militaires, diplomates. Mais il a aussi, bien sûr, dans la tête d'accompagner les fidèles fraîchement convertis au christianisme. Et il a constaté qu'il y a une inégalité. C'est comme si les catholiques chinois sont des catholiques de second rang. Et il a lutté contre cela, parfois jusqu'à à l'encontre de son supérieur direct. Et ça lui a coûté cher, parce que parfois des puissances politiques à travers l'autre. Donc, première chose que je veux insister, donc, il a largement promu l'importance d'avoir un clergé local. Lui, il a écrit régulièrement à son supérieur en Europe et parfois à Rome, au pape, au dicastère, pour demander la permission d'ordonner des prêtres et des évêques chinois. Jusqu'à présent, non, inexistant. C'est-à-dire Rome et puis le Saint-Siège a constaté que la mission en Chine n'est pas assez mûre pour avoir ses propres clergés. Donc, Père Vincent Leb a beaucoup œuvré pour que Rome reconnaisse. Donc, il y a une génération de Chinois chrétiens qui sont mûrs pour recevoir les ordres, et spécialement le sacerdoce dans le sens plénière, devenir un évêque. Donc, c'est son premier œuvre de vraiment aider l'enracinement de l'Église en Chine. Deuxième œuvre, c'est il a, comme tout le père lazariste, il est très sensible aux questions sociales. Donc la inégalité, pauvreté, les personnes abandonnées, personnes marginalisées par la société, il y en a malheureusement dans le contexte historique. Donc il a beaucoup œuvré, comme tout le père Lazariste de son époque, par ses moyens, avec l'aide de d'autres bienfaiteurs, pour aider les chrétiens locaux puissent vivre décemment, avec dignité. Et troisième, c'est par les biais culturels. Donc il a fondé le premier journal catholique en Chine, donc ça permet justement de éduquer les élites pour qu'ils comprennent le message de l'Évangile d'une manière pas forcément doctrinale, mais d'une manière plus de l'actualité, une lecture de l'actualité par un message évangélique. Et aussi une chose qui me plaît énormément, parce que moi j'aime beaucoup les chants grégoriens, Père Vincent Leb a un petit peu cynisé le chant grégorien. Le chant grégorien, c'est la mélodie depuis le haut Moyen-Âge, avec le texte latin de l'Écriture sainte. Et Père Vincent Leb a cherché d'harmoniser un petit peu, tout en traduisant le latin en chinois et en respectant le rythme propre du chant grégorien. Donc il a aussi, en quelque sorte, introduit ce trésor de l'Église universelle à un peuple qui est jusqu'à présent ignorant de cette raison. Donc c'est pour moi, c'est trois choses que je trouve extraordinaires chez Père Vincent Leb.
Aujourd'hui, si on prend du recul, quel est l'héritage du Père Leb aujourd'hui dans l'Église de Chine ?
Alors, il y a plusieurs héritages à lire et puis à apprécier. Alors, premier héritage, c'est de l'ordre spirituel. Pendant son séjour et sa mission en Chine, il a fondé deux communautés locales pour les chrétiens chinois. Une communauté masculine s'appelle le Petit Frère de Saint-Jean-Baptiste, donc pour les Chinois chrétiens qui ont une vocation, et aussi une communauté féminine, sa petite sœur de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour les religieuses, donc pour les Chinoises, qui sont d'une vocation. Donc ces deux œuvres-là, très peu connues en Europe, parce que c'est une vocation locale, donc c'est quelque chose qui permet de faire rayonner son héritage. Un deuxième héritage qu'on peut voir aujourd'hui, c'est justement sa vision, son intuition de parler par le biais de culture, le chant, la musique, le média, et puis aussi le problème sociaux qui permet justement d'entrer dans la particularité de la culture chinoise et de la société chinoise.
Aujourd'hui, Christophe Hou, la culture est de plus en plus déchristianisée. Vous nous parlez de médias, vous nous parlez de justement réinvestir la culture. Est-ce que l'inculturation peut être justement une réponse à la déchristianisation auquel nous assistons aujourd'hui en Occident ?
Je pense que oui. L'inculturation peut être un des moyens. Il y a beaucoup de moyens pour sauver les âmes au Christ. Donc, c'est un des moyens parce que, comme je dis au début, donc, la culture, c'est le prolongement, c'est le rayonnement de la nature humaine. Donc, pour atteindre la nature humaine, pour que la grâce divine puisse opérer efficacement dans la nature humaine, il faut que ce support culturel soit favorable, soit propice, soit fertile pour que le semence évangélique puisse grandir et porter du fruit. Donc, je pense que l'inculturation est véritablement un des moyens qui pourrait répandre à notre société malheureusement déchristianisée.
En résumé, vous nous dites qu'il n'y a pas d'évangélisation sans inculturation.
Voilà, je veux prendre, si je peux me permettre de prendre un exemple, c'est-à-dire, on prend l'exemple du Christ. Lorsque le Verbe de Dieu est sorti du sein de Sainte Trinité, il est arrivé sur une culture donnée. Il a choisi un moment de l'histoire, il a choisi un lieu, sur la terre, il a choisi un foyer en particulier, et à partir de là, il a œuvré, il a prêché, il a fait des miracles, il a fait beaucoup de choses, et dans toutes ces choses-là, il a toujours rappelé l'exigence de la foi, de la croix. Il dit, ce qui veut me suivre, qu'il porte la croix et me suivre. Il faut renoncer des choses, parfois des choses légitimes. Et donc, l'inculturation doit, aujourd'hui, doit s'inspirer de l'exemple du Christ, le dynamisme christique qui sort du Père, qui œuvre dans une culture donnée et qui ramène les gens, ramène les âmes vers le Christ. Si on oublie ce dynamisme, l'inculturation devient stérile. Et si on garde l'exemple du Christ qui sort du Père, qui ramène les âmes vers le Père, si on garde ce dynamisme-là, que ce soit l'inculturation dans le ministère de mission, ou même en Europe, en Amérique du Nord, dans le pays autre, anciennement christianisé, l'inculturation pourrait être un moyen très efficace.
Dans mon introduction, j'évoquais la prudence éclairée dont parle Saint Jean-Paul II au sujet de l'inculturation. Est-ce qu'il peut y avoir des dérives à l'inculturation, où justement ça se transforme en un contre-témoignage finalement ?
Alors, merci pour ces deux questions, que je trouve extrêmement important. Effectivement, l'inculturation pourrait avoir des dérives, justement. Lorsqu'on oublie que, j'ai évoqué, il y a double objectif. Il y a d'abord sensibilité aux cultures données, mais il y a aussi la sauvegarde de l'intégrité de la foi chrétienne. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit que je regrette, parfois, il n'y a pas de fruits à long terme. Justement, j'ai constaté, c'est un missionnaire, par moment, ont oublié, ils ont mis trop d'accent sur l'inculturation et ils n'ont pas fait assez d'efforts pour la sauvegarde de la foi chrétienne. Et donc, c'est bien que la foi chrétienne s'adapte, devenait lisible et compréhensible pour les gens locaux, mais on a oublié d'exiger le peuple et la culture locale de transcender ses limites, parce que toute culture a ses limites. Même la meilleure culture sur la Terre a ses limites. Donc, l'évangile doit être exigeant. Donc l'inculturation ne devrait pas oublier cette exigence évangélique. Si on oublie l'exigence évangélique, on a tendance d'emprisonner le peuple local dans leur gloire, leur splendeur culturelle, tout en oubliant toute culture repose sur la nature humaine. Et si la culture n'est pas portée par l'évangile, la nature humaine n'est pas transcendée. Et dans ce cas-là, la grâce divine n'opère pas et on perd son temps et ça devient inefficace.
Merci beaucoup Christophe Wood d'avoir répondu à mes questions sur l'inculturation. Amis auditeurs, c'est déjà la fin de notre émission. N'hésitez pas à largement la partager, à envoyer le podcast à vos amis, à votre famille. Je vous retrouve la semaine prochaine, amis auditeurs. D'ici là, bonne semaine et que la paix soit avec vous.